métier que ce Paul de Chomédé de Maisonneuve. Il était membre de la société Notre-Dame de Montréal. Je vais vous expliquer. Fondateur de, donc, de Ville-Marie, premier gouverneur de l'île de Montréal. Et il a été remplacé par les Sulpiciens, les membres de la compagnie de Saint-Sulpice. Il est né à Neuville-sur-Vanne, dans la province de Champagne, d'où vient mon ancêtre Jean Beaugrand, qu'il va faire venir, d'ailleurs. Comme des centaines et des centaines d'autres Français très simples qui sont venus ici, dans le régiment de Carignan. Et il a été baptisé à Neuville-sur-Vanne, où Maurice da Silva et d'autres ont fait édifier un monument en l'honneur de Paul de Chomédé de Maisonneuve, en France. Il a donc été baptisé là le 15 février 1612. Il est mort, comme je vous ai dit, en 1676, à 64 ans. Paul de Chomédé était le fils de Louis de Chomédé, seigneur de Chavannes, de Germenois-en-Brie et autres lieux, comme on disait à l'époque. Et il était le fils de la seconde femme de ce seigneur, Marie de Tomelin, qui était la fille d'un noble, Jean de Tomelin, qui était conseiller du roi, trésorier de France, en Champagne. Et chose étrange, sa femme s'appelait Ambroise d'Aucois. Ambroise comme nom de femme, comme on dit Dominique, Claude, etc., qui sont des noms de femmes aussi. Paul de Chomédé a grandi donc au manoir de Neuville-sur-Vanne, situé non loin du fief Maisonneuve. Son père l'a acquis en 1614, et c'est de là que vient le nom de Paul de Chomédé de Maisonneuve. Il avait deux sœurs et un frère. Louise, l'aînée de la famille, dont l'acte de baptême n'a pas été retracé, va devenir plus tard Mère Louise de Sainte-Marie de la Congrégation Notre-Dame à Troyes, où Marguerite Bourgeois aura des accointances. Elle connaîtra cette congrégation, puis elle va donner le même nom à sa congrégation qu'elle va fonder à Montréal. La carrière militaire de Paul de Chomédé commence de bonne heure, je vous assure. Comme c'était d'ailleurs la coutume à l'époque, il n'a que 13 ans, imaginez. Mais on peut sauter par-dessus tout le reste. Monsieur Delier de Casson nous donne quelques explications, mais ce n'est pas tellement important. Ce qui est intéressant, c'est quand il rencontre Jérôme Le Royer de la Dauversière, dont je vous ai déjà parlé. C'est lui qui a imprimé une direction nouvelle à la vie de Paul de Chomédé. C'était un saint que ce Jérôme Le Royer de la Dauversière. Je me demande qu'est-ce qu'on attend pour le canoniser, lui qui était père de famille. Il a non seulement fondé Montréal de loin en envoyant Paul de Chomédé de Maisonneuve, mais il a aussi fondé, je vais vous en parler demain en parlant de Marie de la Fère, les sœurs hospitalières de Saint-Joseph que l'on connaît bien ou que l'on connaissait très bien il y a encore quelques années et qui sont responsables de la fondation de l'Hôtel Dieu qui est toujours là à Montréal. C'est un simple percepteur que ce Jérôme Le Royer, un percepteur d'impôts de la petite ville de La Flèche dans la province d'Anjou. Mais vous, on reconnaît des noms qu'on retrouve au Québec, La Flèche, Anjou. Mais en fait, c'est un des grands serviteurs de Dieu de l'époque. C'est une âme inspirée que ce Jérôme Le Royer. C'est un créateur d'œuvres d'envergure, comme je viens de vous dire. Il a été habité par le souci du soin des malades en fondant ses hospitalières. Le soin des missions, de la propagation de la foi, de la transmission du message de l'Évangile en envoyant des missionnaires. Il s'est intéressé à la civilisation. Et il s'est intéressé avec force à des dévotions vivantes dans l'Église. Il n'est d'ailleurs qu'un représentant de cette grande vague de mysticisme qui, originaire de l'Espagne au XVIe siècle, qui ne connaît pas Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et plusieurs autres, a envahi la France du XVIIe siècle. L'une des grandes réalisations de ces mystiques a été la fondation de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui a joué un rôle si important en France. Ça revient souvent quand je vous parle de cette époque, les questions de la Compagnie du Saint-Sacrement. Il faudrait que je lui consacre une émission un jour pour montrer comment cette forme d'action catholique, si on peut dire, a été extrêmement dynamique. Jérôme le Royer de la Dauversière est né le 18 mars 1597 à La Flèche, aujourd'hui dans le département de la Sarthe, donc près de l'abbaye de Solesmes. Il était le fils cadet de Jérôme le Royer, premier seigneur de la Dauversière, et de Marie Houdin. Sa famille était originaire de Bretagne. Jérôme le Royer est l'un des premiers élèves du collège de La Flèche, fondé en 1604 par Henri IV et dirigé par les jésuites, donc une formation jésuite. Il y connaît le père Charles l'Allemand, très connu dans notre histoire, entré dans la Compagnie de Jésus en 1607, et son aîné de 10 ans, l'autre père l'Allemand. Il a connu aussi le père Paul le Jeune. Je vous ai consacré une émission il n'y a pas longtemps, ce bon père Paul le Jeune, qui est entré en 1613, lui, 6 ans après Charles l'Allemand. Comme confrère de collège, Jérôme le Royer a eu le philosophe René Descartes, dont aussi je vous ai parlé récemment, et plusieurs des grands missionnaires de la Nouvelle-France, comme François Regnault, Claude Cantin, Jacques Buteux, puis à leur côté, il entend en 1614 le père Edmond Massé parler des missions d'Acadie. Oui, de l'Acadie ici. Qui ont dû être abandonnés par suite à ce moment-là de la conquête anglaise protestante qui, évidemment, n'acceptait pas très bien la présence de jésuites. C'est pas d'aujourd'hui. À la mort de son père, pendant l'été de 1618, Jérôme hérite du nom et du fief de la Dauversière. Il hérite aussi de la charge de receveur de taille à La Flèche. Et en 1620, il épouse Jeanne de Beaugé, qui lui donne 6 enfants. C'est donc un vrai laïc marié, 6 enfants, et qui fonde une congrégation religieuse et une ville comme Montréal, etc. D'une piété solide, cet homme-là, hein? D'un zèle merveilleux pour les œuvres qu'on dit aujourd'hui d'action sociale. Il devient bientôt, avec son frère aîné Joseph, le promoteur et l'organisateur des créations charitables, justement, de la petite ville de La Flèche. On dit que c'est une vision surnaturelle, d'ailleurs, qui l'a amené à la fondation d'un institut d'hospitalière sous le vocable de Saint-Joseph. Saint-Joseph, qui s'occupait de Jésus quand il pouvait être malade, et de Marie, sa femme aussi, quand elle était malade. C'est lui qui veillait. Et ils lui ont donné ce nom de Saint-Joseph, qui était d'ailleurs très populaire à l'époque, surtout depuis Thérèse d'Avila, le siècle précédent. Et cette vision aurait eu lieu en 1632, ou au commencement de 1633. Et il fondera ses hospitalières avec Marie de Laferre, dont je vais vous parler demain. La deuxième révélation surnaturelle que M. de la Dauversière aurait eue peut être fixée en l'année 1635, donc 2 ans plus tard, ou 1636 peut-être. Selon le texte qui se trouve dans « Les véritables motifs de la Société Notre-Dame de Montréal », c'est un ouvrage qui a été imprimé en 1643, donc moins de 10 ans plus tard, je cite « Le dessein de Montréal a pris son origine par un homme de vertu ». C'est quelque chose, un homme de vertu de nos jours. On dirait qu'il y en a de moins en moins. « A pris donc son origine par un homme de vertu ». Qu'il plût à la divine bonté d'inspirer, il y a 7 ou 8 ans, de travailler pour les Amérindiens, les sauvages, comme on disait à l'époque, de la Nouvelle-France, dont il n'avait auparavant aucune particulière connaissance et quelques répugnances qu'il y eut, comme chose par-dessus ses forces, pas la répugnance à l'égard des Amérindiens, mais la répugnance à l'égard du travail énorme que ça implique, hein, et quelques répugnances qu'il y eut, comme chose par-dessus ses forces. Contraire à sa condition, puisqu'il est marié et puis il y a du travail à faire, et nuisible, dit le texte, à sa famille, ça peut nuire à sa famille, hein, l'absence, les réunions, etc. Enfin, dit le texte, plusieurs fois poussé et éclairé par des vues intérieures, qui lui représentaient réellement les lieux, les choses et les personnes dont il se devait servir, fortifié intérieurement à l'entreprendre, comme service signalé que Dieu demandait de lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se rendit, comme Samuel dans la Bible, à l'appel de son maître. Il obéit. En 1639, sur le conseil du père François Chauveau, jésuite du collège de la Flèche, il se rend à Paris accompagné de Pierre Chevrier, baron de Fancamp, gagné à la cause du Montréal, comme on disait. On disait toujours le Montréal, et les habitants de Montréal, les montréalistes. Gagné à cette cause depuis longtemps. Hein. Alors, il veut former une société susceptible de mener à bien une entreprise de cette envergure, la fondation d'une ville missionnaire dans le lointain Canada. Saviez-vous que notre ville a été fondée comme une ville missionnaire? Où est la mission maintenant? Hein? Notre ville de Montréal est donc, au départ, une ville missionnaire, ce qui est très, très, très rare. Et voici que se produit, à la fin de février, la rencontre avec l'abbé Jean-Jacques Ollier, jeune prêtre de 31 ans, qui depuis 1936 se désire travailler à la conversion des infidèles, comme on disait. Il ne sait pas encore en quel pays. On a là-dessus son propre témoignage. Et M. de la Dauversière, lui, et M. Ollier, fondateur des Sulpiciens, prêtre, se croisent dans la galerie peinte par Saint Vouet à l'entrée de la somptueuse demeure du chancelier Paul Pierre Séguier à Paris. Et deux heures durant, on discute. On met au point les grandes lignes du projet. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'acquisition de l'île de Montréal, qui est la propriété de Jean de Lauzon. J'ai déjà rencontré un de ses descendants qui est prêtre. Je lui ai d'ailleurs donné une gravure ancienne de Jean de Lauzon. Il en était très fier, ce prêtre, en France, qui était intendant dans le Dauphiné, futur gouverneur de la Nouvelle-France, Jean de Lauzon. Ainsi que la fondation d'une société de messieurs et de dames dont le recrutement rapide ne semble pas impossible. De toute façon, déjà, M. Ollier répond du consentement du baron Gaston de Ranty, dont je vous ai parlé il y a deux mois, trois mois, un des grands chrétiens du XVIIe siècle, ce Gaston de Ranty, vous vous souvenez, hein? Supérieur de la célèbre compagnie du Saint-Sacrement, voilà, dont messieurs de la Dauversière et Ollier sont membres. Et M. Ollier invitera également à entrer dans la Société de Montréal deux autres de ses amis. Et bientôt, il faut songer à trouver un jeune chef qui possède toutes les qualités requises pour conduire cette œuvre. Difficile. Et un jour, le père Charles Lallemand, jésuite, qui est toujours consulté par M. de la Dauversière au sujet de toutes sortes de choses, lui dit, après avoir écouté ses plaintes là, sur ce chef introuvable, il dit, « Je sais un brave gentilhomme champenois, nommé monsieur de Maisonneuve, qui a telle et telle qualité, lequel serait possible bien votre fait et commission. » Ça serait l'homme à trouver, quoi, dans ce vieux langage. Et monsieur de la Dauversière se dépêche à s'entretenir avec Paul de Chemédé, auquel il remet, avec une confiance absolue, la direction de sa fondation de l'autre côté de l'océan Atlantique, la fondation de Ville-Marie, Montréal. Alors, le projet, c'est que M. de Maisonneuve sera au Canada, investi de pouvoirs correspondant aux mêmes droits et devoirs des dirigeants en France, de la Société Notre-Dame de Montréal. Cette société recrutera, financera et assistera de toutes sortes de façons cette petite colonie en formation. Et M. de Maisonneuve devient donc un des principaux associés de Montréal, à la grande joie de M. Ollier et de M. de Fancamp. On l'appelle gentilhomme de vertu et de cœur. C'était de très grands compliments à l'époque. Gentilhomme de vertu et de cœur. On est loin de cette nouvelle revue qui se publie à Montréal et dont on fait sensation sur les ondes même de Radio-Canada et qui s'appelle Vice ou Vice, et où on se moque de Jésus en le traitant d'homosexuel. Ce qui se passe actuellement est tellement épouvantable que je me demande où on en est rendu quand on voit la Fondation de Montréal se faire dans de telles conditions admirables. Maisonneuve se rend bientôt à La Rochelle, sur les côtes de l'Atlantique, en France, en Normandie, lieu de l'embarquement. Et c'est là que tous les élus ont été recrutés. Le 9 mai 1641, deux navires quittent le port de La Rochelle. Ils emportent vers la haute mer, vers l'Atlantique, à destination de la Nouvelle-France, la majeure partie des colons de Montréal. Dans un des vaisseaux, M. de Maisonneuve a pris place avec 25 hommes et un prêtre séculier, qui est destiné, lui, comme aumônier des Ursulines à Québec. Dans l'autre bateau se trouve Jeanne Mance, une laïque, l'infirmière et l'économe du groupe là qui va fonder Montréal. Et puis il y a le père Jacques de la Place, un jésuite, puis 12 hommes. Le reste de la recrue, comme on dit, 10 hommes, ont quitté depuis quelques semaines le port de Dieppe. 3 autres femmes y sont montées. 2 des ouvriers ont refusé de s'embarquer sans leurs épouses. Il y a une jeune fille de l'endroit, cependant, qui entre de violence. Elle force, et elle est décidée, elle monte à bord du navire, déterminée à s'en aller servir Dieu dans la personne des pauvres sauvages. Une vraie décidée, quoi. Le vaisseau qui amène Jeanne Mance et le père de la place se rend sans encombre à Québec après une traversée d'environ 3 mois. Monsieur Delier de Casson, sulpicien, parle du 8 août, date d'arrivée très plausible. Celui qui porte, le bateau qui porte M. de Maisonneuve, moins heureux, éprouve, écrit-on, de si furieuses tempêtes qu'il est obligé de relâcher par 3 fois en France. M. de Maisonneuve perd, à cause de tout ça, 3 ou 4 hommes et son chirurgien. À quelle date M. de Maisonneuve est-il arrivé à Tadoussac? Très tard, évidemment. Si tard, dit la relation des Jésuites de 1641, que la recrue, ce groupe-là, là, sera dans l'impossibilité de s'installer à Montréal avant le printemps suivant, donc en 1642, le 17 mai, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Delier de Casson choisit, lui, comme date le 20 août, mais c'est improbable, car il y aurait eu que 12 jours d'écoulés depuis l'arrivée de Jeanne Mance, puis ils auraient pu aller fonder Montréal, il n'aurait pas été trop tard. Cette date est remplie, Jeanne Mance est remplie d'inquiétude et d'angoisse même, hein? Puisque elle entend dire partout que la venue de nouveaux navires de France devient impossible à la période de l'année où elle s'exprime. Le seul document que nous connaissons aujourd'hui signale la présence de Maisonneuve au Canada en 1641. C'est un acte de baptême du 20 septembre, donc un mois plus tard, inséré dans le registre des baptêmes de Sillery à Québec, sans nom de lieu. Mais en marge de l'acte, on dit Tadoussac. C'est un peu compliqué. Monsieur de Maisonneuve y apparaît comme parrain et Jeanne Mance comme marraine. Et c'est un début. Ils vont l'aider de je sais pas combien de monde. Ils sont parrains et marraines d'une petite indienne. Pour ça, je vous le signale parce que c'est déjà commencé. On baptise beaucoup d'indiens, d'indiennes. La petite indienne est baptisée par le père Paul le Jeune, le jésuite, bien peu de temps avant son départ pour la France par les derniers vaisseaux. Parce qu'après ça, il est trop tard. C'est l'hiver. Peut-on en conclure que le baptême a eu lieu à Tadoussac et non à Sillery et que la date du 20 septembre 1641 serait la date exacte de l'arrivée de M. de Maisonneuve en terre canadienne? C'est possible qu'on l'attendait pour baptiser la petite fille. Nous comprenons, en ce qui concerne Jeanne Mance, qu'elle soit accourue à Tadoussac. Mettre ce chef de la recrue, Maisonneuve, au courant de l'opposition manifestée à Québec contre quoi? Le projet d'installer une petite colonie dans l'île de Montréal. On disait que c'est une folle entreprise. On criait ça partout, folle entreprise. En somme, il y a toujours du monde pour critiquer et empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il désire. Combien de gens empêchent Dieu, à travers ses saints, de faire ce qu'il voudrait pour le bien de l'humanité? L'hostilité témoignée par les Québécois. Ne trouble pas Paul Chemédé de Maisonneuve, il est averti de l'état de choses. Il fait face à ses contradicteurs, c'est un homme sage, hein? Un homme d'une rare prudence que ce fondateur de Montréal, Maisonneuve. C'est aussi un soldat résolu. Et dès la première entrevue avec le gouverneur, M. de Montmagny, il maintient sa décision de monter à Montréal le printemps suivant, puisque la saison devient trop tardive. Et une nouvelle tentative est faite peu après, par le gouverneur et tous les notables de Québec, on offre à M. de Maisonneuve l'île d'Orléans à la place, en échange de l'île de Montréal, afin qu'il soit plus à portée de secours en cas d'attaque des Iroquois. Et c'est alors que Paul de Chomédée prononce les paroles. Vous vous souvenez là que Delier de Casson nous a conservé. C'est historique, ça, hein? Voici les paroles de Maisonneuve. Monsieur, ce que vous me dites serait bon si on m'avait envoyé pour délibérer et choisir un poste. Mais ayant été déterminé par la compagnie à Paris, là, qui m'envoie que j'irai au Montréal, il est de mon honneur et vous trouverez bon que j'y monte pour commencer une colonie. Quand tous les arbres de cette île se devraient changer en autant d'Iroquois, hein? C'est un homme de caractère. Tout le monde l'admire. Monsieur de Montmagny s'engage, pour sa part, comme le supérieur des Jésuites, le père Barthélemy Vimont, à se rendre lui-même en octobre à l'île de Montréal, avec plusieurs personnes bien versées dans la connaissance du pays. Pour choisir l'endroit où on viendra en 1642, l'endroit le plus propice à la création de ce nouveau poste. Et monsieur de Maisonneuve est dans l'impossibilité de les accompagner. Il est occupé à surveiller le déchargement des navires et à mettre ses hommes au travail. Et voilà pourquoi son nom n'apparaît pas dans le paragraphe des relations des Jésuites où on parle de ce petit voyage du 15 octobre 1641. Et alors donc, le 17e jour de mai, rapportent les vieux documents, de la présente année 1642, monsieur le gouverneur mit le sieur de Maisonneuve en possession de cette île, de Montréal, au nom de messieurs de Montréal, pour y commencer les premiers bâtiments. Le révérend père Vimont fit chanter le Veni Creator, dit la Sainte Messe, exposa le Saint-Sacrement. Imaginez tout ce qu'on faisait à cette époque pour faire de cette ville une sainte ville. Dit la Sainte Messe, exposa le Saint-Sacrement, pour impétrer du ciel, c'est-à-dire pour demander au ciel, un heureux commencement de cet ouvrage. L'on met incontinent, tout de suite quoi, après les hommes en besogne, au travail. On fait un réduit de gros pieux pour se tenir à couvert contre les ennemis, toujours les Iroquois. Le père Vimont, supérieur des missions des Jésuites du Canada, auquel on doit attribuer la substance de ce texte-là, tiré des relations 1642, a été témoin oculaire et participant aux cérémonies. Un geste de M. de Maisonneuve reste à rappeler parmi les incidents de la Fondation. Le gouverneur de Montréal, on l'a vu, a mis les hommes au travail une fois les cérémonies civiles et religieuses terminées. Il fait abattre plusieurs arbres avant d'ériger le réduit de gros pieux. Et Sœur Morin nous raconte que le gouverneur a tenu à abattre lui-même le premier arbre. D'ailleurs, en arrivant, il s'est mis à genoux et a prié immédiatement. Le père Vimont, qui célèbre le dimanche 18 mai 1842 la première grande messe chantée à Montréal, on peut voir le tableau dans la cathédrale de Montréal, eh bien, il prononce un discours dans lequel il prophétise, en quelque sorte, la grandeur future de la ville qui vient à peine de naître. Le premier baptême a lieu dès le mois de juillet. C'est le 28e de juillet, rapporte le vieux texte, une petite escouade d'Algonquins passant en ce quartier-là s'y arrêtèrent quelques jours. Et un capitaine, Algonquin, présenta son fils au baptême, âgé d'environ 4 ans. Le père Joseph Poncet le fit chrétien. Et qui est votre parrain? Le sieur de Maisonneuve et mademoiselle Jeanne Mance le nommèrent Joseph. Au nom de messieurs et mesdames de Notre-Dame de Montréal, et voilà le premier fruit de ce que cette île a porté pour le paradis, et ce ne sera pas le dernier. Au mois d'août, l'arrivée des vaisseaux de France met en émoi les montréalistes, comme on dit. On se demandait quelles nouvelles on allait recevoir de France. Alors Pierre le gardeur de Repentigny débarquait un matin sur les rives de Montréal. Il amenait avec lui les 12 colons de la seconde recrue, une grande quantité de denrées, des ornements sacrés, des munitions de guerre et force bonne nouvelle. Et il apprit à M. de Maisonneuve et à Mademoiselle Mance que le dessin de Montréal, le projet de Montréal, écrit par M. de la Dauversière à la suggestion de Mademoiselle Mance et distribué dans les milieux dévots et influents, avait singulièrement augmenté le nombre des associés en France. Il dit environ 35 personnes de condition, donc des gens riches, se sont unies en l'église de Notre-Dame de Paris et consacrèrent l'île de Montréal à la Sainte Famille sous la protection particulière de la Sainte Vierge. Et là, les montréalistes donnèrent libre cours à leur joie À quelques jours de là, et la fête de l'Assomption le 15 août est célébrée avec éclat, et à cette première grande fête de Notre-Dame de Montréal, le tonnerre des canons fit retentir toute l'île. L'année 1642 s'achève de façon dramatique, c'est la fondation de Montréal, hein? La fondation de Ville-Marie. La sécurité des colons est gravement menacée. Pourquoi? Parce que le fleuve Saint-Laurent déborde. Il y a une inondation qui devient imminente. Alors, M. de Maisonneuve se distingue par sa maîtrise et surtout par sa foi très, très vive. Et d'accord avec les aumôniers, les pères Poncet et Duperron, il promet, si les eaux qui battent déjà fortement les portes du fort se retirent, sans faire aucun dommage sérieux, de se rendre, vous vous souvenez ça, en portant une croix sur ses épaules jusqu'au sommet du Mont-Royal afin de l'y planter. C'est pourquoi la Société Saint-Jean-Baptiste, si je me souviens bien, a fait ériger cette croix lumineuse qui est là sur la montagne, c'est en souvenir de cet événement. Où cet homme d'une trentaine d'années porte une croix jusqu'au sommet du Mont-Royal à partir du fleuve. C'est très loin. Il écrit sa promesse, il la fait lire publiquement, puis il va poser une croix au pied de laquelle était fixé l'écrit, au bord de la rivière, du fleuve, qui mugit. Et on écrit « Les eaux, après s'être arrêtées peu de temps au seuil de la porte du fort, sans croître davantage, se retirèrent peu à peu, mais les habitants hors de danger » et le capitaine Monsieur de Maisonneuve dans l'exécution de sa promesse. C'est le vieux texte. Alors les Iroquois, dans l'ignorance où ils étaient de l'établissement d'un poste à Montréal, n'apparaissent pas, heureusement, avant l'été de 1643. Ça donne le temps. Mais à partir de ce temps, ils cessent pas du tout de harceler les Montréalistes ou les Montréalais, se livrant à cette guerre d'embuscade dans laquelle ils sont passés maîtres, les Iroquois. Dans la seule journée du 9 juin 1643, ça fait à peine un an que c'est fondé, ils ont fait déjà 6 victimes, dont une seule va leur échapper. Non sans avoir beaucoup souffert d'ailleurs de sa captivité, parce que c'était terrible les tortures. Une vie difficile, remplie de combats épuisants, incessants, vient de commencer. Montréal a été ainsi fondé. Où sommes-nous rendus dans notre embourgeoisement? Hein? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, elle va se poursuivre durant un quart de siècle. Les victimes tombent nombreuses, préparées au sacrifice suprême chaque matin, comment? Par la réception de l'Eucharistie à la messe. Il paie la rançon de tous en ce Montréal, qu'on a comparé en 1643 à l'Église primitive du début d'il y a 2000 ans. Et toujours, Monsieur de Maisonneuve se montre le chef incomparable d'une poignée de héros, hommes et femmes. Il se révèle aussi un organisateur habile. En juillet, au lendemain de l'arrivée des premiers vaisseaux de France, Monsieur de Montmagny monte à Ville-Marie. Il vient de recevoir de Louis XIII une lettre personnelle qui lui recommande d'accorder sa protection de façon toute particulière à la petite colonie de Montréal. Il annonce en outre que le roi fait don aux associés de Montréal d'un navire de 350 tonneaux appelé le Notre-Dame, qui fera chaque année la traversée de l'océan. Les Montréalistes peuvent ainsi s'attendre à recevoir tout ce qui est nécessaire pour eux, même, disait-on, des sommes d'argent destinées par une bienfaitrice inconnue à la construction de l'hôpital de Montréal, l'hôpital général de Montréal, et à Mademoiselle Mance. Nos Français, écrit Delier de Casson, se lassèrent de se voir tous les jours insultés par les Iroquois à Ville-Marie. La colère gronde en eux depuis le massacre de leurs compagnons de travail l'année précédente. Ils prient sans cesse, Monsieur de Maisonneuve, de leur permettre de se mesurer avec ces assassins qui ne cessent de les guetter, bien cachés dans la forêt. Monsieur de Maisonneuve refuse. Non, refuse. Il est assez peu familiarisé, d'ailleurs, avec la petite guerre. Il les trouve en trop petit nombre pour faire face à 100 ou 200 Iroquois, peut-être. On obéit, mais nos bouillants François, comme on disait, finirent par croire que M. de Maisonneuve appréhendait de s'exposer. Il avait peur, quoi. Le 30 mars 1644, donc près de 2 ans après la fondation, les dogues, des bons chiens que l'on avait fait venir de France et qui possédaient déjà un flair extraordinaire pour dépister les Iroquois sous la conduite d'une chienne nommée Pilote, je crois qu'elle a même son monument sur la place d'armes, Pilote, se mirent à crier et hurler de toutes leurs forces, faisant face du côté où ils ressentaient les ennemis, ces chiens-là. Alors les colons accourent auprès de M. de Maisonneuve, ils disaient « Messieurs les ennemis, comme ça qu'on les appelait, messieurs les ennemis, c'est étrange, sont dans le bois d'un tel côté, ne les irons-nous jamais voir ?» À quoi le gouverneur répond, Maisonneuve répond brusquement contre son habitude, « Oui, vous les verrez. Vous les verrez qu'on se prépare tout à l'heure à marcher. Mais qu'on soit aussi brave qu'on le promet, je vais à votre tête. » Et là, c'est fantastique. Une fois entrés dans le bois, les colons, au nombre de 30, aperçoivent quoi? 200 Iroquois bien placés en diverses embuscades. La lutte s'annonce inégale, 7-1. On fait de son mieux tant que durent les munitions, mais la poudre manque. Il faut battre en retraite. Monsieur de Maisonneuve dirige l'expédition avec succès. Il les envoie devant lui. Il ne s'éloigne que lorsqu'il voit les blessés déjà à distance et sous bonne garde. Mais les colons, une fois sortis du bois, sont saisis de panique et s'enfuient à toutes jambes vers le fort, laissant Monsieur de Maisonneuve seul et bien loin en arrière. Il est vite rejoint par un des chefs Iroquois, sur lequel il fait feu aussitôt, mais le coup rate. Alors promptement, tandis que le chef Iroquois lui saute à la gorge, Maisonneuve décharge son second pistolet et l'étend mort à ses pieds. Sidérés, les Iroquois hésitent un moment, puis se précipitent vers leur chef. L'un d'eux le charge sur ses épaules et tous s'enfoncent à la hâte dans le bois. Et heureusement, M. de Maisonneuve, en pénétrant dans le fort, voit les colons accourir, manifester leur joie de sa victoire, louer sa rare bravoure et jurer qu'à l'avenir, ils se garderont bien d'exposer ainsi sa vie. Quelle aventure! On raconte que M. de Maisonneuve ne posséda jamais un seul pied de terrain, bien qu'il fût gouverneur résident durant 23 ans. Et on ajoute, Jeanne Mance non plus n'a jamais été propriétaire de bienfonds. C'est en sa qualité de directrice de l'hôpital qu'elle reçut quelques terres pour le soutien des pauvres de l'Hôtel-Dieu. Ah, il y a des nouvelles navrantes qui viennent de Paris, qui parviennent à Mademoiselle Mance en 1649. D'abord, le père Rapine de Boisvert Récollet, ou franciscain si vous voulez, qui servait d'intermédiaire entre la bienfaitrice inconnue et Mademoiselle Mance, est décédé depuis décembre 1648. Puis, la Société de Montréal, qui s'occupe de Montréal à Paris, que la mort du baron de Ranty, Gaston de Ranty, et le départ de quelques autres avaient bouleversé et affaibli, ne manifestait plus aucune activité. Et surtout, la maladie mortelle dont souffrait M. de la Dauversière, le créateur du mouvement apostolique de Ville-Marie, son âme dirigeante, pouvait mettre fin à l'entreprise entière de Montréal, et ses 3 coups de massue et cris d'olier de casson forcèrent Mademoiselle Mance à s'embarquer immédiatement pour la France. Le péril était vraiment partout dans l'ancienne comme dans la Nouvelle-France. Peu après le départ de Mademoiselle Mance, on apprend le martyre des pères Jean de Brébeuf et Gabriel Lallemand. C'est le 350e anniversaire cette année. Nous allons célébrer ça au mois de septembre à Rencontre spirituelle. C'est ensuite l'anéantissement presque total des Hurons, dont de petites bandes arrivaient chaque jour à Ville-Marie pour y trouver refuge. Ils ont été massacrés dans ce qui est l'Ontario aujourd'hui. Chacun entrevoyait alors en quel péril mortel allait bientôt se trouver Ville-Marie, car une fois les Hurons vaincus, les Iroquois vont tourner leur furie sur les Montréalistes. Ils juraient déjà de tout détruire en ce petit poste presque sans défense. Incessamment, raconte M. Delier de Casson, nous les avions sur les bras. Il n'y a pas de mois cet été où notre livre des morts ne soit marqué en lettres rouges par la main des Iroquois. Et le retour de Mademoiselle Mance à l'automne de 1650 apporte un peu de réconfort aux assiégés. L'administratrice de l'hôpital a réussi sa mission. la Société Notre-Dame de Montréal va revivre. Grâce à l'appui total de M. Jean-Jacques Ollier, fondateur des Sulpiciens Paris, qui accepte de la diriger dorénavant. Et la détresse des Montréalistes, ou si vous voulez toujours des Montréalais, l'a touché. Puis M. de la Dauversière, lui, cet homme marié, père de 6 enfants, est guéri du reste. Il s'active, lui aussi, autour de l'œuvre. Puis sa fameuse bienfaitrice inconnue que Jeanne Mance a visitée souvent reste toujours l'amie, l'amie très, très, très généreuse des hospitalières et de Jeanne Mance. Mais au printemps de 1651, les attaques des Iroquois deviennent si fréquentes, si violentes, qu'on croit que la fin de Ville-Marie est arrivée. Monsieur de Maisonneuve oblige tous les habitants de Montréal à se réfugier au fort. Parce qu'il y en a qui sont établis dans des maisons un peu au loin. Mademoiselle Mance, avec ses malades, ses blessés et ses pauvres, y vient aussi. Bientôt, s'écrie M. Dollier de Casson, on n'ose plus aller à 4 pas de sa maison sans avoir son fusil, son épée et son pistolet. Enfin, comme nous diminuons tous les jours, nos ennemis s'encouragent pour leur grand nombre. Alors, M. de Maisonneuve voit tomber un à un les colons qu'il aime. Et il se doit de protéger Ville-Marie. Et peu à peu, sa décision est prise de faire cesser ce carnage. Comment faire? Voici que Jeanne Mance intervient soudain. Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met à la disposition de Maisonneuve 22 000 livres, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, donné par la fameuse bienfaitrice inconnue, pour lever une recrue de soldats ouvriers. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, de notre ancêtre est venu. Moi, mon ancêtre est venu comme ça. À l'automne de 1651, les Montréalais voient partir M. de Maisonneuve pour la France. Tout étant considéré, le gouverneur ne put repousser l'offre de Jeanne Mance, l'administratrice de l'hôpital. En remettant entre les mains de M. Daibou des Musseaux, la conduite de Ville-Marie, il prononce ces paroles historiques. « Je tâcherai d'amener 200 hommes pour défendre ce lieu, que si je n'en ai pas du moins 100, je ne reviendrai pas. » Et il faudra tout abandonner, car aussi bien la place ne serait pas soutenable. Un peu plus, et Ville-Marie disparaissait. Or, le séjour en Europe de M. de Maisonneuve dure 2 ans, et tandis qu'à Montréal, le major Lambert Clos, il y a la rue Clos à Montréal, j'entends souvent même des Canadiens français dire la rue Clossé. C'est Clos, Lambert Clos. Et il y a son monument sur la place d'Armes, d'ailleurs, lui aussi. Et ses soldats, puis tous les colons valides, opposent une résistance héroïque aux agresseurs. Monsieur de Maisonneuve met tout en œuvre en France, avec l'aide de Monsieur de la Dauversière et l'appui financier des associés de Montréal, afin de recruter de nombreux défenseurs pour défendre Ville-Marie. Mais tout d'abord, Monsieur de Maisonneuve, avec une finesse diplomatique, dont le récit de Monsieur Dollier de Casson lui donne un aperçu, veut plaider la cause de Montréal auprès de la bienfaitrice dont Mademoiselle Mance lui a révélé le nom. Sans faire soupçonner le moins du monde à Madame Claude de Bullion, c'est son nom, il y a une rue de Bullion à Montréal, qu'il connaissait les relations existant entre elle et Jeanne Mance, et il fait attention, il ne dit rien, il a longuement parlé de la détresse de Ville-Marie, et la riche grande dame en est très impressionnée, car à peu de temps de là, M. de Maisonneuve reçoit, imaginez, des mains du président Guillaume de Lamoignon, cousin de Bullion, là, et peut-être un des associés de morale, une somme encore de 20 000 livres qu'une, ouvrez les guillemets, personne de qualité, disait-on, offre à M. de Maisonneuve pour activer le recrutement des colons soldats de Ville-Marie. Imaginez tout ce qu'on doit à cette femme riche et généreuse. Ah, s'il y avait une Madame de Bullion, hein, pour Radio Ville-Marie et Radio Soleil. Hein. Au printemps de 1653, on s'embarque pour Montréal. Sur les 154 hommes engagés par Maisonneuve, 120 font honneur à leur signature. Ils montent le 20 juin 1653 à Saint-Nazaire sur le Saint-Nicolas. Et le 22 septembre, donc, après une bien pénible traversée, au cours de laquelle plusieurs des nouveaux colons sont victimes d'une contagion, et le navire entre en rade de Québec. Et l'accueil est enthousiaste, évidemment, dans la capitale. Un tédéum est chanté à l'église de Québec. On se rend plusieurs semaines plus tard à Ville-Marie, car un bon nombre de colons doivent séjourner à l'hôpital, étant à peine guéris des fièvres de la contagion. C'est avec un grand soulagement que les Montréalais reçoivent ces soldats venus des diverses régions de France, principalement du Maine et de l'Anjou. Ces 100 hommes vont sauver non seulement Montréal, mais la Nouvelle-France tout entière. Car la chute de Ville-Marie m'entraînerait infailliblement la destruction de tous les autres postes. Et on se demande si la chute de Montréal à la langue anglaise ne détruira pas le restant du Québec si on continue comme ça à Montréal. Actuellement, avec la recrue de 1653, arrive à Ville-Marie une jeune femme de mérite, la future institutrice des petits Montréalais et des petites Indiennes, Marguerite Bourgeois, Sainte Marguerite Bourgeois. On doit à cette fille de bon esprit, dont la vertu est un trésor, mille choses merveilleuses. Elle a été choisie grâce à la sagacité de M. de Maisonneuve et de sa sœur mère Louise de Sainte-Marie du couvent de Notre-Dame de Troyes. On dit que c'est le texte que cette bonne fille que j'amène, c'est Maisonneuve qui parle, à Jeanne Mance, il dit: cette bonne fille que j'amène sera un puissant secours à Montréal. Au reste, cette fille est encore un fruit de notre champagne qui semble vouloir donner à ce lieu plus que tous les autres réunis ensemble. C'est très gentil pour la champagne, ça me fait plaisir. Merci, monsieur de Maisonneuve. Et tout change et se stabilise enfin à Ville-Marie. Grâce au puissant renfort qui s'y établit, les colons, peu à peu, quittent le fort et reviennent habiter leur maisonnette. Et les travaux des champs occupent de nombreux travailleurs, et le gouverneur de Montréal profite de la paix momentanée que signent en 1655 enfin les Iroquois pour retourner une quatrième fois en France. Il s'agit d'obtenir là de M. Ollier de quoi fonder à Montréal un séminaire pour former des prêtres. Jeanne Mance, qui vieillit et qu'un accident prive des services d'un de ses bras, a ramené de France en 1659 les premières hospitalières de Saint-Joseph. Je les salue. Ses fondatrices, les mères Moreau de Brizol, Massé et Maillet. Elle accomplit ainsi l'un des vœux les plus chers de M. de la Dauversière. Je vous parlerai donc de la fondatrice des hospitalières demain, Marie de la Fère, qui a fondé ça avec Jérôme Leroyer de la Dauversière. À Ville-Marie, donc, les Iroquois ont repris leurs sanglantes embuscades. Alors là, M. de Maisonneuve crée le 27 janvier 1663, pour faire face au danger, la milice qu'il appelle de la Sainte Famille, basée donc sur la sauvegarde des familles fondées à Montréal, le respect des familles. C'est avec des familles qu'on fonde, hein, un peuple. Elle se composait de 139 colons partagés en 20 escouades. Chaque escouade avait pour chef un caporal élu à la pluralité des voix. Là, le marquis de Tracy, nommé lieutenant général de la Nouvelle-France, débarque à Québec le 30 juin 1665, avec quoi 4 compagnies de soldats qui viennent, comme lui, des Antilles. Et déjà, quelques jours avant, les 18 et 19 juin précédents, quoi, 4 autres compagnies arrivaient de France et préludaient à l'envoi du célèbre régiment de Carignan-Salière, où mon père était, où mon ancêtre était, formé de 20 compagnies, comprenant en tout un millier de combattants. Puis du monde, enfin. Le roi a résolu de mettre un terme, quoi, aux incursions iroquoises. Et là, le salut du Canada est donc assuré, tôt ou tard. Et les habitants, qui ont été éprouvés de façon épouvantable depuis des années par la guerre iroquoise, ne peuvent que s'en réjouir. Mais à Ville-Marie, en septembre 1665, il y a une nouvelle épouvantable qui abat les courages et qui atteint en plein cœur les Montréalais. C'est que M. de Maisonneuve, leur bon gouverneur, vient de recevoir de M. de Tracy l'ordre de retourner en France pour un congé indéfini. Est-ce qu'il est étonné de recevoir un pareil ordre, lui, Maisonneuve, qui compte pourtant 24 années de service héroïque? Il ne l'est pas autant qu'on pourrait le croire. Depuis quelques années, il n'a pas joui de la faveur des gouverneurs généraux, M. de Saffré de Mézy. Surtout, il s'est montré d'une intolérance et d'une morgue vraiment regrettables. C'est à partir un peu de ce temps-là et un peu plus tard, vers 1720, qu'on a commencé à dire ces deux mots terribles, les maudits français. Hein. C'est à cause de certains d'entre eux qui étaient désagréables comme ça. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Il faut cesser de dire ça, d'ailleurs. Il faut lire les récits de Sœur Morin, dont je vous ai déjà parlé aussi, dont l'indignation est à peine voilée. La première historienne, hein, pour s'en convaincre. Âme supérieure, M. de Maisonneuve supporte tout, avec une dignité admirable. Et il part à l'automne de 1665, il emporte les regrets de son petit peuple fidèle. Il s'en va vivre à Paris, retiré, humble, discret toujours. Le souvenir de l'œuvre accomplie à Ville-Marie garde son âme sereine, vraiment, et confiante jusqu'à la fin. Il s'éteint 11 ans plus tard. Il a à son chevet son jeune ami, Philippe de Turmeny, et son dévoué serviteur, Louis Fin. Ses funérailles ont lieu à l'église des Pères de la Doctrine chrétienne, où il était réfugié, non loin de l'abbaye Saint-Étienne-du-Mont, dans laquelle il aurait été inhumé. Sans la constante activité d'hommes comme Jérôme de la Dauversière, en France, puis de Paul de Chemédé de Maisonneuve, au Canada, mais la Société Notre-Dame de Montréal aurait succombé sous le poids des difficultés puis d'épreuves sans nombre. Ça nous prend, comme ça nous prenait à l'époque, des chefs tenaces, des âmes dont on devine la sainteté, pour maintenir pendant un quart de siècle ce petit poste de Montréal, isolé du reste de la colonie. Oui, il est mort le 9 septembre 1675. On peut lire dans son testament, premièrement, comme chrétien catholique romain, a recommandé son âme à Dieu, suppliant sa divine bonté de lui faire miséricorde et la Sainte Vierge, les saints, les saintes d'intercéder pour lui. Et il lègue les quelques biens qu'il a à la congrégation Notre-Dame de Montréal et aux hospitalières de Saint-Joseph de Ville-Marie. Pensez-vous, dans vos testaments, à faire des dons comme ça? C'est bien beau, la recherche sur le cancer, etc. Je suis pas contre, vous pouvez en donner. Mais mon Dieu, que de dons on pourrait faire à Radio Ville-Marie et à quantité d'œuvres importantes sur le plan social et sur le plan chrétien.